L'expérience commence. C'est un théâtre sans spectateur. Normalement, il n'y a pas de témoins. L'expérience est intime, elle se passe à l'abri des regards. Le théâtre arrive à l'intérieur, dans le salon de la famille. Nous sommes à Marseille. Un metteur en scène s'invite chez vous et la chambre se transforme en loge. Luc Tartare est metteur en scène. Le théâtre Massalia à Marseille choisit une famille volontaire. La règle du jeu est simple, l'auteur ne connaît pas la famille. Il ne sait rien d'eux, il sait juste combien ils sont et quel âge ils ont. Il a rendez-vous chez eux et il va apporter des textes. Julie Berthier et Véronique Lamandour ont joué le jeu de vivre aussi l'expérience avec eux. Elles se sont glissées dans la famille trois dimanches du printemps. Et au départ, Julie Berthier, il y a un mot, cantonade, alors je lis la définition. Partie du théâtre, située sur les côtés, derrière les décors et cachée aux spectateurs. Pourquoi ce mot-là, il était au départ de l'envie de cette expérience ?
Cantonade, c'est les coulisses du théâtre de mon père quand il était professeur de théâtre. Et j'étais petite et je m'asseyais souvent sur les marches à regarder ses élèves jouer. Et ici, c'était l'idée de suivre un auteur, de rentrer dans une famille et de voir ce qui se passe. Ma mère est psychanalyste en plus, donc là, ça faisait... On est dans le théâtre et on est dans l'intime. Et l'idée d'être une petite souris et d'aller chez les gens me plaisait beaucoup.
Et justement, vous êtes tout à coup deux regards qui arrivaient dans la famille. Véronique Lamandour, le premier jour quand on débarque dans la famille en même temps que le metteur en scène, comment on se met où? Comment on trouve sa place?
Déjà, on est arrivé à trois, nous aussi, parce qu'il y avait le preneur de son, Florent Layani, avec une énorme valise. Donc effectivement, où on se met dans un espace qui n'est pas si grand que ça non plus. On a essayé, il a installé sur la table, qui n'est pas très grande non plus. Mais ils ont été tellement, en fait, tellement accueillants que tout espace chez eux était possible pour nous. Donc c'est pas trop posé la question de la place non plus. Ils nous ont vraiment intégrés très vite, je trouve.
Et en même temps, le premier jour, vous arrivez, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer entre eux?
Non, aucune. On ne sait pas. Moi, pour ma part, contrairement à Julie qui les avait rencontrés, moi, je ne les avais pas rencontrés, je savais vraiment, mais rien du tout. Donc, c'est quatre enfants qui déboulent comme ça et qui se jettent dans les bras, dans les jambes. Et c'est très surprenant quand on ne connaît absolument pas les gens. Et c'est un couple qui est... oui, les bras ouverts et qui nous attend. En fait, ils sont extrêmement contents de vivre ce qu'ils appellent eux-mêmes l'expérience.
On se retrouve après l'écoute, dans à peu près 50 minutes, avec Julie Berthier et Véronique Lamandour. On entre dans l'appartement, témoin d'un théâtre imprévu.
Sur les trottoirs, il y a plein de choses qui sont tombées à cause du mistral, des morceaux de bois. Qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de cajot cassé. Des palmiers renversés. Une photo de Jean-Claude Gaudin, catastrophe naturelle. C'est écrit catastrophe naturelle sur la photo de Jean-Claude Gaudin. Là, on a vu sur l'appartement de Lilita. Parfois, Christelle est à sa fenêtre. La semaine dernière, lorsque j'allais dans une autre famille, Christelle était à sa fenêtre. Aujourd'hui, elle n'est pas à sa fenêtre.
Un auteur à leur table.
Alors, tu me comptes ?
20.
Ouais.
20. 20.
C'est
20.
Quoi ça ?
En gros.
Oui.
En gros.
Ok. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il y a mis la musique. Tu sais comment elle est, papa ? Oui.
2 euros, 1 euro, 1 euro.
Ok. Alors, tu comptes. Alors, ça fait 20 euros.
20 euros.
Plus 5 euros.
25.
Ok. Plus 2. 25
plus 2.
25 plus 2. Alors, ça fait combien ?
28.
Non. 25 plus 2.
25.
J'entends pas quoi. Belle musique !
7. 7.
Ok, 7 plus 1. Ça fait 8.
8.
Tu comptes 9, 10. Ouais, ça fait 30.
30.
Ok. Et plus.
31. 32.
Voilà, alors ça fait 32.
32.
Oh. Ouais, c'est très bien.
C'est fini, le garçon. Allô, Dieu. C'est fini. Allez, les bandes à saluer. Allez, les claquettes sont où? Où est-ce? Il est où, Dieu?
Alors, est-ce que tout le monde est à la page 8 ?
Oui.
Ok.
Allez, please. Qui c'est les bains, déjà ?
Moi.
Alors, mais on va pas lire toute la page 8.
Non,
hein.
Juste la fin.
On va lire juste la fin.
Plus à moi aussi,
souligné.
Là, c'est moi.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre le petit dialogue de Tim et Tom. Donc, ça va être entre Jibril. C'est Jibril et Kylian. Chaque fois, les enfants me sont tombés dans les bras. Le premier jour, je me souviens, il faisait assez frais le matin. Et je me souviens comme ils étaient chauds, les enfants. Ils se sont jetés un peu dans mes jambes. Et il me semble que je leur ai dit, j'ai dû leur dire, oh là là, je me réchauffe à votre contact. Et oui, il y a un côté, on se jette dans les bras les uns des autres. C'est une famille, les Blinita Papini, qui est très charnelle. Ils mettent très très à l'aise. C'est vraiment compliqué parce que il faut à la fois appréhender la famille dans son ensemble, mais il faut appréhender chaque personne au sein de cette famille et faire en sorte que chacun se sente à sa place. Et le faire en un laps de temps qui est vraiment très court, parce que dès qu'on a franchi la porte, ça y est, on est dedans. Et donc là, il ne faut pas prendre un temps fou pour comprendre tout ça, il faut que ça aille très très vite. Je suis pour un temps membre de cette famille, vraiment, hein, quand je dis que les gens ouvrent leurs portes avec grande générosité, c'est qu'ils les accueillent, un nouveau membre de la famille, mais je sais aussi que je suis de passage. Donc, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire que je suis accueilli comme un nouveau membre de la famille, mais qui est de passage et qui va repartir. Et comme j'ai su, comme j'ai réussi à conquérir ma place dans ma famille à moi, ma vraie place à moi, c'est-à-dire ma vraie... J'ai su être le Luc que je voulais être, me créer mon identité, ma vie. Eh bien, la famille ne me fait plus peur, comme elle a pu me faire peur à certains temps dans mon enfance et dans mon adolescence. Mais maintenant, la famille ne me fait plus peur. Et donc, du coup, rentrer dans une famille, quelle qu'elle soit, ne me fait plus peur.
Ça va, lui ? Vous allez bien ? Alors, j'ai pas de fenêtre. Il y a un petit qui vient vous ouvrir.
Avec Yann, voilà.
Avec Yann.
Une ribambelle d'enfants.
J'ai envie d'une banane.
J'ai envie d'une banane.
Qu'est-ce qui te fait rire, Aïssa? La demande de la grand-mère.
J'ai envie d'une banane.
Qu'est-ce que tu en penses?
Ça fougue.
C'est la fougue. Alors, c'est la fougue de la grand-mère ou c'est la fougue de Christelle?
Oh là là.
Oh là là, me dit-il.
Tu repars à la place de...
Avec un grand sourire. Voilà,
Kylian.
On va intervertir. Donc, ah, Jibril, tu prends la place de Kylian. Et Kylian, tu prends la place de Jibril.
Allez. Jibril.
Moi, je viens de Toulon. Je suis née à Toulon, mais en fait, je suis italienne, de la région Calabre. Aïssa, c'est un Algérien, de Sétif. Et Jibril et Safa, c'est comme mes enfants. Voilà.
Mon père, il travaillait au consulat d'Algérie, de Marseille. Et c'était le chef du service de sécurité du consulat d'Algérie. Et ma mère, elle a toujours travaillé principalement de ménage. Elle était chef d'équipe, tout ça normal et tout. Elle travaillait énormément. J'ai grandi dans le quartier nord jusqu'à l'âge de 12 ans.
Le dimanche, mon mari ne travaille pas. Ou parfois, le dimanche, je vais être franche avec toi, il dort. Parce que, en fait, il est crevé. Et c'est là où moi, ouais, je prends mes enfants, mes quatre enfants, et on s'en va. Et ben là, on a dit, bon allez, c'est trois dimanches, c'est pas grave. Et les enfants, ils ont été contents, ils comptaient même les jours.
Hello, trouvé.
C'est bien.
Course. À pied.
C'est bien.
Basket. Mal au pied. Skate. Yes. Yes.
Ouais, c'était ouais. Super les garçons. C'était super, c'est ça.
Être à l'écoute de ce corps qui respire. Sans rien modifier, sans rien avoir comme autre intention que d'être à l'écoute de ce corps qui respire. Comment il respire? Par où il respire?
Moi, je voulais être comédien depuis tout petit, hein, quand j'avais l'âge de Jordan, 6 ans. Je voulais déjà être comédien. Alors, je sais pas pourquoi je place ça à 6 ans, mais j'ai l'impression, dans les souvenirs qui me restent, j'ai l'impression qu'à 6 ans, 6, 7 ans, je savais déjà que je... Enfin, je savais. Je désirais déjà ardemment être comédien. Et puis après, j'ai demandé de façon assez répétée à ma mère d'aller voir un cours d'art dramatique, un cours de théâtre. Mais je pense que j'ai dû être assez insistant parce que moi j'étais un petit garçon réservé, timide, qui parlait peu. Ma mère était quelqu'un d'une forte personnalité, qui n'accédait pas facilement à nos désirs, qui était plutôt dans le refus, qui disait souvent non. Ouais, bon, il lui arrivait d'accepter évidemment, mais je pense que j'ai dû insister beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'elle accepte de me conduire à un cours de théâtre. Et donc quand je suis arrivé, je me souviens, ils étaient en plein exercice de respiration, donc ils étaient tous allongés par terre. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux faire du théâtre, je veux pas respirer par terre comme ça. Bon, bref. Et du coup, ça a dû me calmer pendant quelques années. Mais alors après, au cours de mon adolescence, j'ai fait le chemin par moi-même, sans plus demander à ma mère et à ma famille de m'accompagner. Et là, avec des amis, je suis allé au conservatoire d'Arras, dans la classe d'un monsieur qui m'a tout appris, qui s'appelle Thomas Gennari, qui était professeur au conservatoire d'Arras. Et alors là, ça a été l'ouverture d'une porte sur un monde extraordinaire. J'ai découvert la vie, en fait.
Voix qui tremble, œil humide. Pense à respirer, dos trempé, pieds qui crissent, souffle court. La balistique du texte, cri, postillon, coup de talon dans le sol. Grandis-toi. J'étais assise sur les marches d'un petit escalier, près des rideaux, sur le côté de la scène. La voix grave et précise, mon père poussait ses élèves dans leur retranchement, dans l'inconnu. J'aimais bien regarder les cours de théâtre de mon père.
J'ai passé des concours, alors en cachette, c'est drôle, hein, en cachette de mes parents, parce que je sentais que c'était la décision m'appartenait. Je vous ai apporté des textes.
Oui.
Et alors, je m'attendais à voir Shainez, en fait,
oui,
qui malheureusement ne sera pas avec nous aujourd'hui,
oui,
c'est
non,
ça.
Oui, mais...
Même complètement. Donc ouais, il va falloir qu'on remplace Shainez, parce que j'avais prévu un texte pour elle. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer Shainez? À qui on pourrait demander? Kylian, t'as une idée?
Ouais.
À l'Arlésienne.
À l'Arlésienne.
À Julie. Okay.
On va demander à Julie.
Ouais.
Julie, tu viens nous rejoindre?
Ah bah non, c'est à Gageant.
Julie, t'es embauchée. Hein. Alors, en fait, vous êtes trois lecteurs adultes.
Oui.
Il y a Christelle, Aïssa et donc Julie qui nous a rejoint. Il y a trois lecteurs enfants. Il y a Djibril, il y a Kylian, il y a Jordan. Et nous aurons une dessinatrice,
Safa.
Ouais.
Pour qui j'ai même prévu un texte.
Ouais.
Chaque adulte est en lien avec un enfant. Et Julie est en lien avec Djibril, Aïssa avec Kylian,
avec Chloé,
et Christelle avec Jordan.
Oui.
J'ai envie d'une étoile.
Mais, mamie, ce n'est pas possible, c'est ça.
J'ai envie d'une banane.
J'ai envie de... Alors là, Christelle.
Non, mais en fait, c'est bon. Pardon, bon. Allez, on reprend, pardon.
Là, allez, Aïssa... Il est aux anges aussi. Alors,
pardon.
C'est une étoile, Christelle.
Elle est bonne pied, elle est bonne pied, vous. Allez, allez, allez.
Attention.
Allez. Chut, chut, chut.
On va reprendre.
Excusez-moi.
On va reprendre à Tim Tom, Tim ouais. Tom. Et Kylian, il faut que tu...
En même temps que ton frère. Temps.
Voilà.
Tu dis oui, mais en même temps, toi voilà. Et ton frère.
Tu parles fort.
Mais attention.
Allez.
Mettez votre tourne. Doigt. Vous pouvez mettre votre doigt là, sur le texte. Non, hein. Là. Vous pouvez suivre en mettant votre doigt. Hein. Moi, je le fais aussi, d'ailleurs. Ouais. Ok, allez, attention, on y va.
Tim, Tom, Tim, Tom.
Oui, oui.
J'ai envie d'une étoile.
Je veux une banane.
Safa, tu sais ce que tu vas faire ? Ce que je te propose, c'est que tu dessines Tim et Tom. Tu voudrais dessiner Tim et Tom ? Ouais, c'est super. Safa, elle va nous dessiner les deux petits garçons de la grand-mère. Ouais. Et pendant ce temps-là, nous, on continue. Tout le monde est prêt ? Kylian, tu es prêt ? Jordan, tu es prêt ? Jibril, tu es prêt ?
Oui.
Aïssa et Christelle sont prêts.
Oui, c'est bon.
Ok, attention, on y va.
Tu mets encore une minute, c'est bon.
Salut Jibril.
Tu vas bien ?
Oui.
Tu es en forme ? Il est là, il est là. Il arrive.
J'entends ça, toi. Alors c'est drôle parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 vélos d'enfants qui sont accrochés à la balustrade. Salut les Bilita.
Oh, mes petits, mes tout petits, mes grands garçons, une étoile, merci.
C'est ça, Christelle, est-ce que ça peut être encore plus admirative ?
Ouais, ouais, je vais essayer.
Elle est...
Tout à l'heure, elle est en tenue.
Non, mais je l'ai fait hier soir. J'ai réussi à le faire hier soir, mais là...
Là, tu es encouragée par Aïssa.
Mais hier soir, j'ai réussi, je vais le refaire. Allez, non, mais hier soir, je l'ai réussi, bébé.
Voilà, Monica ouais. Bellucci. Oui.
Allez, Jibril.
Attention, donc tu es, ouais. Tu es admirative ouais. De cette étoile que tu découvres.
Attends.
Christelle, vas-y.
Oh, mes petits, mes tout petits, mes grands garçons, une étoile, merci.
Ok.
Et la grand-mère boit l'eau du bol avec l'étoile dedans. Puis elle ferme les yeux, se couche en souriant et s'endort. S'endort tellement fatiguée qu'elle s'arrête de respirer. Sa tête légère, légère, s'envole pour de bon.
Oh non !
C'est une histoire que ça peut se vivre, ça.
Ouais, ça peut se vivre.
Ouais, ça peut se vivre. En réalité, une grand-mère peut demander ça.
Et bien sûr.
Voilà.
Ouais.
Mes enfants, je veux ramener-moi la lune.
Et oui, ramenez-moi la lune.
Voilà,
et toi, tu serais prêt à ramener la lune à tes enfants, avec ça ?
Moi, j'emmène, tout le système solaire. Ah oui, parce que c'est une obligation de faire le Stop. Plus possible pour ses enfants.
J'ai une idée. Allez. Moi aussi.
Alors, ce que je vous propose, on va faire une petite pause.
Allez. Papa, t'as perdu.
Thank you.
lorsque je travaille avec les familles, j'aime beaucoup découvrir les regards qu'ils portent les uns sur les autres au moment où on travaille sur les pièces. Il y a un regard des parents vers leurs enfants, et inversement, il y a un regard des enfants vers leurs parents, et puis des regards au sein de la fratrie. C'est-à-dire que c'est une chose qu'on fait si rarement de lire ensemble. On fait ça jamais. Dans quelques familles, les parents lisent des histoires à leurs enfants. Mais il est très rare qu'on partage une lecture à voix haute. Et dans ce regard, il y a à la fois de la curiosité, de l'incrédulité, il y a du plaisir, il y a de l'admiration. Et moi, je bois du petit lait. C'est un cadeau qu'ils me font.
Hein. Attends-moi, il faut bouger les meubles. Parce que pour les gens, on va les recevoir.
Oh, Luc, il est adorable. Très calme, souriant.
Il ressemble à un vieux. Puis il a une pote, une casquette marron et noire.
De la patience.
Il est costaud.
Il est dans son monde. C'est deux fois que je l'ai vu. Il est dans son monde, il est dans son truc. Il est dedans. Il est dedans à 2000%. Je dirais qu'il va retourner. Et puis mon mère écrit.
Dégarni.
Dans la famille Blilita, je suis le Joker. L'Arlésienne, sauf qu'ici, j'apparais sur la scène. Je contredis Bizet. Moi qui voulais rester dans l'ombre et regarder. Je remplace Chahinez, leur nièce, qui passe le concours d'agent pénitentiaire. Dans les coulisses, en file indienne, la chambre des parents. Entre Christelle et Djibril, du plus petit au plus grand. Lire un texte en famille, jamais fait.
Alors moi, je suis le petit dernier. Famille nombreuse, 6 enfants, avec un drame juste avant moi, parce que l'accouchement précédent s'est mal passé et le bébé est mort pendant l'accouchement, étranglé par le cordon ombilical. Donc évidemment, ça a laissé des traces absolument terribles chez mes parents. Et puis j'imagine dans l'ensemble de la famille. Et moi, je suis arrivé après ça. Donc j'avais une place particulière. Et parce que j'étais le dernier, et parce que j'étais l'enfant du berceau qui arrivait après un cercueil, en fait. Et donc, place particulière, et il a fallu que je me fasse ma propre place, que j'invente ma propre place. Je me souviens de courses qu'on inventait, de courses déguisement. Je me souviens de ça, c'est vieux, voilà, c'est vieux. Il y avait un sac avec des déguisements et il fallait que, donc il y avait une ligne de départ et il y avait, je sais pas, on était 4-5 enfants et devant nous, 30 mètres devant nous, il y avait des sacs de déguisements et il y avait un signal de départ qui était donné et il fallait qu'on court vers les sacs et qu'on défasse les sacs de tous les vêtements qu'ils contenaient et puis qu'on se déguise. Mais en un temps record, on avait, je sais pas, une minute pour se déguiser. Je me souviens de ça. Et c'était, j'adorais ça. Je me souviens de marionnettes que j'avais aussi. J'avais un castelet avec des marionnettes. Et mon cousin me dit toujours que j'avais inventé une histoire d'une dame. Je me souviens de la tête de la marionnette. Elle avait un gros nez. Et cette femme, je ne sais plus comment je l'avais appelée, mais elle était condamnée à marcher toute sa vie sur le même trottoir. Elle n'avait pas le droit de traverser. En fait, j'écrivais des histoires. J'ai l'impression que j'écrivais des histoires déjà. Mais sans m'en rendre compte, sans le savoir.
Ouvre.
C'est ça qu'il faut faire.
Ok.
Il
j'ai eu Jérémy du théâtre Massalia qui m'a appelé dans la semaine là, pour déjà savoir, pour savoir combien on avait de personnes ici, à la maison. Et pour me dire aussi qu'il y avait la responsable du théâtre Massalia qui allait venir. Bon, j'espère pas trop avoir le trac et pas faire trop de bafouilles, t'as vu. Parce que voilà, c'est quand même... je vais être un petit peu gênée, mais après, voilà.
Le trac, je l'aurais plus à l'extérieur, mais là, je suis chez moi, c'est mon cocon familial, c'est autre chose. Quand on connaît l'endroit, c'est pas pareil. C'est autre chose. Après, si ce soir, l'OMI gagne contre Lyon, c'est la cerise sur le gâteau.
Répétez un petit peu avant que vos invités arrivent. Et donc on va faire l'entrée, on va faire les deux premières pages. On va lire les deux premières pages. Et puis peut-être qu'on prendra des tout petits passages ici ou là. Et puis peut-être qu'on fera la fin.
Pourquoi qu'on fasse la 5 Alors peut-être le début de la 5. Qui êtes-vous jusqu'à une étoile? Comment attraper une étoile?
Ouais.
D'accord, vous voyez ça?
Ouais, ma.
Le début de la page 5.
Tu te trompes, ma. Non.
C'est moi.
Le début de la page 5. Oui, le début de la page 5.
Non.
De la réplique de la grand-mère.
Non.
Dit qui êtes-vous jusqu'à une étoile? Comment attraper une étoile?
Jusqu'à toi, c'est ça? Non, c'est. Tu
veux?
Ouais.
Ok.
Ok.
Attention.
La grand-mère.
Oui.
Oui.
Allez, on fait ça. Attention, on y va.
Qui êtes-vous?
Tim. Tom. Moi, c'est nous, mamie.
Nous sommes tes petits-fils.
Mes petits-fils? Ah bon? Vous êtes drôlement jaunis. Mais vous ne pouvez pas être mes petits-fils. Mes petits-fils sont allés me chercher une étoile. Ils ne devraient plus tarder.
Tim et Tom ont peur qu'à force d'oublier les choses, elles finissent par oublier de vivre. Le cœur gonflé de tristesse et la tête pleine de questions mathématiques à propos de la hauteur du ciel et des étoiles. Tim et Tom vont se coucher.
Dans la rue des Blivita, il y a un cinéma, le Gyptis. Quand j'étais petite, c'était un théâtre. Celui de la compagnie Château Vouyoukas. Mon père y faisait souvent les décors ou les costumes. Andonis Vouyoukas avait un accent grec et une grosse voix. Je rougissais et me cachais derrière les jambes de mon père quand il me parlait.
Ah ben, je trouve que c'est un quartier d'une grande poésie. C'est un quartier populaire. Avec du linge aux fenêtres. Des petites rues. On sent que c'est un quartier ancien.
Quand je rentre dans une famille, j'ai toujours un peu le trac parce que je me demande si je vais être à la hauteur de la famille, de ce qui va se passer. Est-ce que je vais savoir les aider et les mettre en confiance? Puis après, le trac s'estompe assez vite parce que les familles ouvrent grand leurs portes. Et chez les Blilita, d'abord, ils sont nombreux les Blilita. Donc la première arrivée, elle est... Alors évidemment, je le sais avant d'arriver, qu'ils sont nombreux. Mais il faut mettre un prénom ou un visage sur un prénom, plutôt, parce qu'on connaît les prénoms à l'avance. Je connais les prénoms à l'avance. Et donc là, il faut que je mette un visage sur chacun des prénoms. Et donc, l'enjeu, c'est aussi d'être au plus près de ce que je suis, moi, Luc. De ne pas composer un personnage.
d'arriver avec ce que je suis, c'est-à-dire je suis auteur, j'écris des pièces de théâtre et là je viens leur faire découvrir quelques pièces.
Fauteuil dur, bras poilus de mon père. Papier corné du programme. Chuchotement dans le noir. Le bruit des éclairages. Les voix qui me bercent et me bousculent. Tout sautement gêné. Les taches de couleur des habits sur les sièges à l'entracte. C'est ma place, 22 en lettres d'or. Enfant, j'accompagnais souvent mon père au théâtre avec ma sœur. Pour éviter de tomber dans le sommeil, mon père m'avait donné un conseil. Concentre-toi sur un détail, un tout petit détail que tu vois sur scène. Rentre dedans comme dans un tableau vivant et raconte-toi une histoire.
Dans la famille Blilita Papini, nous avons Christelle, Aïssa, Djibril, Kylian, Jordan et Safa qui sera la dessinatrice du jour. La famille Blilita Papini, c'est à vous.
Une fois une planète, un pays, un village, et dans ce village une maison.
Avec une grand-mère dedans, et un puits dans le jardin, et deux frères dans des chambres côte à côte.
Tim.
Tim.
Tom.
Des jumeaux.
Des faux jumeaux.
Le père, la mère, bien sûr. Ils sont dans la maison, ils dorment.
Mais il ne s'agit pas vraiment d'eux, dans notre histoire alors. On n'en parlera pas. On sait juste qu'ils sont là.
Pour l'instant, c'est la nuit.
Tout le monde dort.
C'est pour ça, on ne voit rien.
Rien.
La grand-mère, elle n'est pas très bien. Elle est là, dans son lit, toute petite. Et elle ne se lève plus. Jamais. Elle est réveillée ou endormie, mais toujours au même endroit. Les yeux ouverts ou fermés, mais toujours au même endroit.
Sa tête s'envole.
Pas sa tête, vraiment.
Non.
Sa tête, enfin...
Si.
Ce qu'il y a dedans.
Dans une maison, en sachant qu'on vient déranger quelque chose. Et il faut qu'on dérange quelque chose. On va déranger les écrans qui sont allumés, qu'on va demander d'éteindre. On va déranger l'ordonnancement du quotidien. On va exiger de façon délicate que tout le monde participe à la lecture, même si le père de famille nous dit « mais moi j'ai pas le temps », en essayant de se dérober au projet ou à la lecture. On va essayer d'insister pour que chacun des membres participe, même auprès de l'adolescent qui vient de s'enfermer dans sa chambre, parce que subitement il dit non. Et donc on va essayer de déranger ça. On va déranger peut-être, toujours de façon délicate évidemment, hein. Il ne s'agit pas d'y aller avec des gros sabots, mais la place de chacun au sein de la famille, non pas pour bouleverser les choses, mais pour les bouleverser de façon poétique. C'est un bouleversement qui est créateur d'autre chose, qui est créateur d'un autre espace, qui est un espace de l'imaginaire en fait. On va les remettre en main leur imaginaire, pour qu'ils essaient d'en faire quelque chose, de vivre quelque chose qui soit différent de leur quotidien. Et ça, s'ils acceptent le jeu, de se déplacer, c'est extraordinaire. Le théâtre, ça m'a sauvé. Ça a sauvé ma vie. Moi, j'étais un petit garçon très timide, qui a désiré très vite faire du théâtre. Peut-être pour sauver sa vie. Je ne le formulais pas comme ça, évidemment, mais pour trouver un espace de vie possible. Dormir, avec le dictionnaire, le déposer ouvert sur l'oreiller d'à côté, l'oreiller qui ne sert plus à rien depuis que mon mari est parti. Chaque soir, une nouvelle page. Le jour, je cherche mes mots. Ils ne viennent pas toujours quand je les appelle. Je commence une phrase et... trou. Un précipice au bord duquel s'arrête ma conversation. Ouvrir le dictionnaire, le déposer sur l'oreiller d'à côté. Lui dire avant de sombrer, « Albert, je t'en prie, colmate mes brèches. » Je m'appelle Victoria, comme la reine. Et moi aussi, mon cœur est pris. Ne dites pas à mon mari disparu qu'il a emporté une partie de ma tête. C'est mon secret. Le fils. Je te cherche partout. Ici, par ici, je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute ça. Os frontal, pariétal, temporal, occipital, sphénoïde, ethmoïde, osselet de l'oreille moyenne, marteau, enclume, étrier, os maxillaire, lacrymal, palatin, corset nasal inférieur, os nasal, zygomatique, mandibule. Qu'est-ce que c'est? Les os du crâne, de l'oreille moyenne, de la face. Je continue. Rachis cervical, os hyoïde. Arrête. Vertèbre thoracique, côte, sternum, omoplate, clavicule, humérus. Arrête ça. Dis donc. Je suis ta mère. Dans la transmission, il y a aussi effectivement la transmission de la langue. De comprendre pour les enfants qui n'ont pas l'habitude de ça, et pour les adultes aussi, qui parfois n'ont pas l'habitude de ça non plus, de comprendre que ça se fait à plusieurs, on va se partager la parole. Il y a un partage de la parole.
J'ai une idée.
Quoi?
Demain matin.
Magasin?
Costume de plongée.
Bouteille d'oxygène.
Palme.
Lunettes.
Petite crèche dorée.
Yes.
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 Et à pas de louveteau mouillé, il retourne se coucher.
Ah, tu suis.
Tim, Tom, Tim, Tom.
Une banane.
Super mincé.
Vélo.
Trouver.
Course.
À pied.
Basket.
Mal à pied.
Skate. Yes!
Super les garçons, c'est génial. C'est génial, on enchaîne.
Tu veux mettre comme ça aujourd'hui?
Ouais, j'ai envie de te me faire la couette un peu. On fait la couette?
Oui.
Non.
Si.
Non.
Si.
Non. Viens là. Je suis coiffée, non?
Waouh, je brille.
Oui, tu brilles. Bon gosse, mon fils.
Avec les Bilita, comme avec les autres familles, j'ai l'impression d'être sur la brèche tout le temps. C'est-à-dire que je ne peux pas me reposer. Il faut que je sois là. Il faut que je sois à l'affût. Il faut que la chose avance. Et on a à la faire avancer tous ensemble. Mais c'est sûr que si je constate que quelque chose prend une mauvaise direction, il faut que je sois en capacité de faire comprendre ou de diriger la famille. Hein. Le mot est celui-là. Hein. Comme un metteur en scène dirige des comédiens. Et donc, étant sur la brèche, c'est une position qui demande énormément d'énergie. Et lorsque la séance se termine, je suis épuisé, je suis rincé, je suis vidé. Et j'ai besoin d'un temps pour me refaire, moi-même, physiquement parlant.
La Belle de Mai. C'est un espace que j'adore. Donc c'est là qu'il y a notamment le théâtre Massalia.
Quand la famille Bilita a commencé sa lecture, en fait, c'est un moment où moi je me sens un peu spectateur qui n'est pas tout à fait un spectateur comme un autre, puisque je les ai fait travailler, puisque on a construit cette lecture ensemble, et donc je suis à la fois un spectateur, mais je ne suis pas un spectateur lambda, c'est-à-dire que je me sens toujours un peu sur le qui-vive, un peu démuni, parce qu'en même temps, je ne peux rien faire, la chose leur appartient, et c'est très beau que la chose leur appartienne. Je leur confie le bébé, en fait. Et le but, c'est vraiment ça, c'est que eux s'emparent du bébé. C'est que eux s'emparent de la pièce. Et moi, je ne peux plus rien faire. Et donc, c'est un moment où il faut que j'apprenne à redevenir un spectateur comme un autre, à accepter cette dépossession, en quelque sorte. Mais c'est le jeu du théâtre, ça. C'est un joli moment parce que j'essaie aussi de me décontracter par rapport à ça. J'ai pris quelques photos et j'ai lâché un peu le texte que j'ai entre les mains aussi. Et je ne sais pas vraiment à quoi ça me sert puisque, encore une fois, je ne peux plus intervenir. Donc je me suis forcé à lâcher un peu le texte et à les regarder de façon nouvelle. C'est-à-dire, enfin, devenir un spectateur de ce qu'ils font et de me laisser envahir par l'émotion, la surprise, l'étonnement, c'est-à-dire de rentrer dans l'histoire aussi, c'est-à-dire cette histoire que je connais, évidemment, de la redécouvrir.
Ça rip, caresse, trépigne, ça sautille et gambade, ça fait le fou, ça vibrillonne, virevolte, tournicote, bondit, retombe, et puis soudain ça s'élance.
Un grand merci à Luc Tartare et à la famille Blivita Papini.
Safa,
Jordan,
Kylian,
Jibril,
Aïssa,
Christelle.
Texte lu, Une étoile au fond du puits de Catherine Verlaguet et Jusqu'au bout de Luc Tartare. Remerciements à Émilie Robert et Jérémy Gauthier du théâtre Massalia. À Sandrine Grataloup et l'association Les Scènes à partager. À Olivia Dalric, Sarah Dayan, Françoise Porcher et Guillaume Héribert. Prise de son, Florent Layani. Mixage, Alain Joubert. Attaché de production, Inès Duperron. Coordination, Aurélie Charon. Un auteur à leur table. Une expérience de Julie Berthier, réalisée par Véronique Lamandour. Plus à Marseille, on n'est plus dans l'appartement, on est de retour en studio avec Julie Berthier et Véronique Lamandour. On vient d'écouter ces trois dimanches avec Luc Tartare qui débarque dans la famille. Qui apprivoise qui ? Comment vous avez observé la rencontre et dans le temps entre le metteur en scène et la famille ? Véronique Lamandour.
J'ai l'impression que tout le monde s'est un peu apprivoisé en fait. Que d'un dimanche sur l'autre, il y avait l'envie des uns et des autres de revenir aussi. Et le trac un peu pour eux. J'ai l'impression que c'est vraiment ça s'est fait que chacun s'est apprivoisé à sa place, d'où il était, ceux qui étaient en train de lire, lui qui dirige un peu, Julie qui s'est inscrite après en tant que lectrice, mais je laisserai parler de ça. Florent au son qui était très accaparé par les enfants qui eux-mêmes voulaient absolument aider à installer tout, donc il y a plein de moments où effectivement il s'est fait aider par les enfants et que ça s'est fait assez naturellement en fait.
Et comment vous êtes passée, Julie Berthier, de spectatrice à actrice dans ce dispositif? C'est ça qui a été rigolo, c'est que je me suis un peu faite avoir à mon propre jeu, c'est que au début, je voulais être la petite souris qui observe. Et la nièce de la famille Papini, qui avait 20 ans, devait être là. Et la vie a fait qu'elle n'a pas été là les trois dimanches. Et donc, on a eu l'idée que je prenne sa place. Ce qui a été assez marrant à faire. Et surtout, moi, venant d'une famille plutôt... J'ai beaucoup lu enfant, j'ai beaucoup fait de spectacles de théâtre avec ma sœur et compagnie. Et là, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais jamais lu en famille, tous au même niveau, les parents et les enfants. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai eu envie de suivre ce projet. C'est que c'est de l'intergénérationnel. Tous les âges lisent du théâtre. Voilà. Et ça, ça a été rigolo. Et du coup, j'ai vraiment pris une place dans cette famille. C'était pas prévu du tout, quoi. Et on n'a pas toujours cette expérience du temps quand on enregistre. Vous êtes retourné trois fois à Marseille avec à chaque fois du temps entre. Est-ce que vous réécoutiez ce que vous aviez enregistré? Qu'est-ce que ça a permis dans la construction de l'expérience?
Et on a réécouté, on a profité de ce temps-là qui faisait partie du projet pour ce qu'on appelle des rochers. Tout de suite, garder tout ce qui nous intéressait, le nommer et se dire de quoi encore est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'il faut approfondir, si c'est des choses à approfondir ou qu'est-ce qui nous manque en termes de son, de son chez eux, de son dehors, de paroles plus intimes de leur point de vue ou de celles du point de vue de Luc Tartare. Donc oui, ça a été effectivement assez pratique pour nous de tout écouter déjà au coup par coup.
Et vous ne demandez pas d'écouter la famille ? Ils n'avaient pas envie d'écouter ?
Ça, ils n'ont pas demandé. À aucun moment. Non, ça, ils n'ont pas demandé. Les enfants ont demandé de temps en temps, quand on était en train d'installer, à écouter. Ils ont tous pris les casques qu'on avait, mais juste voilà, sur le moment des enregistrements. Mais non, pas plus que ça, ouais.
Julie
Berthier. Non, et moi, j'ai trouvé ce qui était intéressant, c'était justement le fait de respecter cette temporalité, c'est-à-dire de revenir toutes les semaines pendant trois séances, trois dimanches. C'était aussi respecter l'idée qu'il y a un élément extérieur qui s'invite dans une famille, qui repart. Qu'est-ce que ça provoque dans la famille ? Il revient, et voilà. Et nous, on était là-dedans, et dans le montage, et dans la construction, et aussi dans notre approche de la famille. Parce que la difficulté de ce projet, ça a été de ne pas les rencontrer en amont, et donc d'être dans la découverte au fur et à mesure. Donc on était tous dans une position d'inconfort et de mise en danger qui a été très intéressante au final. Et puis moi je trouve que pour la famille, c'était une double mise en danger, parce que déjà le fait d'accueillir quelqu'un chez soi et d'ouvrir la porte à un inconnu trois dimanches, c'est compliqué. Mais alors en plus de nous accueillir nous et de savoir qu'ils seront écoutés, voilà, il y avait vraiment une mise à l'eau et un courage qui était voilà, chapeau à eux quand même, parce que moi je l'aurais pas forcément fait. Voilà.
Et tout le monde a pris le risque et s'est mis en danger. En parlant de mise en danger, au tout départ du projet, vous pensiez aussi, Julie Berthier, à des extraits du texte « Le traité du funambulisme » de Philippe Petit. Est-ce qu'on peut lire un petit extrait dans la voix de Véronique Lamandour ? Et Julie, vous pouvez nous dire ce que ça évoque pour vous ?
Le voyage à faire, le voici. Lève-toi quand ton fil se mélange à la carte du ciel. Reste celui dont le spectacle semble jeu de hasard. Celui qui est fier de sa peur. Il ose tendre ses câbles par-dessus les précipices. Il se lance à l'assaut des clochers. Il s'éloigne et unit les montagnes. Son câble d'acier et sa corde doivent être fort tendus. Il se sert d'un balancier pour les grandes traversées.
En fait, moi, ce texte, il m'a parlé parce que je vois Luc Tartare comme funambule, qui traverse son fil pour aller dans les familles et puis qui repart. Et je vois les cordages, pour moi, c'est la famille, en fait. C'est vraiment l'idée que ça s'entremêle et qu'il y ait des corps comme ça qui s'étirent, qui reviennent. C'est vraiment le cocon familial pour moi, avec tout ce que ça induit de positif et négatif, et comment on évolue avec l'arrivée d'un élément extérieur qui modifie un ensemble. Comment une personne évolue dans son espace intérieur.
Merci beaucoup Julie Berthier et Véronique Lamandour. Pour la suite des prises de risque, on quittera Marseille dimanche prochain pour arriver sur l'île d'Ouessant avec Octave Broutard et Céline Terce. Ce sera à Ouessant le vent de folie de Pascal Gosselin. Suite à sa disparition, les écouteurs sur les oreilles, il mène l'enquête sur le mystère de ce personnage. Toutes les expériences sont à retrouver sur le site de France Culture. En attendant, il est minuit, vous écoutez France Culture, l'expérience et la création, ça continue.